EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, Rachel est encore avec nous pour notre plus grande joie. Bonjour Rachel.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Quel bonheur, c'est tellement intéressant.
C'est pas un gros effort, je te le dis.
Nous sommes suspendus à tes lèvres, comme
généralement comme ça. Et on est très heureuse que tu sois encore là aujourd'hui. Et on a parlé lundi du syndrome de l'imposteur. On a pu s'auto-diagnostiquer. S'auto-évaluer et aussi avoir des pistes. Merci Rachel, tu as donné des pistes pour qu'on puisse s'en sortir. Et je crois que de vaillantes héroïnes ou héroïnes, je ne sais pas si on fait la liaison, vont pouvoir se lever. Et aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Et ça, c'est quelque chose aussi qui ne touche pas tout le monde, mais qui est quand même assez présent, y compris dans nos milieux d'église aujourd'hui. On peut voir beaucoup de perfectionnisme qui, bon, tu feras la différence avec l'excellence, mais parce que aujourd'hui, bah, les églises sont aussi beaucoup sur comment on va dire ça bien et on sait les églises, le milieu chrétien s'est ouvert à beaucoup de choses, notamment les réseaux, la production, tous les moyens médias, etc., et dont nous-mêmes on bénéficie aujourd'hui. Mais il y a toujours aussi est-ce que c'est un revers de la médaille, je suis pas sûre, mais en tout cas cette zone de vigilance à avoir quand on n'est pas juste là, je fais un message et puis et quoi que même dans la prédication on peut vivre le perfectionnisme, mais de tomber dans quelque chose qui n'est plus de l'excellence, mais qui est du perfectionnisme et qui peut venir nous voler, qui peut venir aussi un petit peu biaiser les choses. Et en tant que femme, il y a beaucoup de femmes, je crois, quand même, qui souffrent du perfectionnisme et qui peut-être n'ont jamais réussi à mettre de mots dessus parce que ça va être un mélange de plein de choses qu'on nous a dit, des attentes qu'on peut avoir, des attentes que nous on a sur nous, mais on se dit pas que c'est du perfectionnisme. On se dit, c'est normal, c'est la norme. Nous, on a un standard élevé. Donc, on va voir, grâce à Rachel, est-ce que c'est du perfectionnisme ou pas? Et c'est quoi un petit peu les dangers aussi du perfectionnisme? Déjà, je sais pas, est-ce que toi, tu es perfectionniste?
Je pense pas.
Tu penses?
Non, là, celui-là, je l'ai pas.
Okay. Je l'ai déjà été, je pense que je l'ai plus. Mais je l'ai déjà été. Ma mère était très perfectionniste dans mon milieu. Mais je pense. Rachel va tout me dire. Je pense que. Je vise l'excellence.
Toi, t'as une petite tendance au perfectionnisme?
Pas vraiment.
Ok.
Non, mais ça pourrait porter à confusion, certains comportements, mais non.
Et Annabelle, toi?
Je crois pas.
Exigeante, oui, mais pas perfectionniste, je pense pas.
Non, quelquefois, je me dis, j'aimerais être peut-être un peu plus perfectionniste.
C'est mon mari, le perfectionniste.
Oui, ça, c'est sûr que...
Voilà, vous en connaissez. Oui,
en fait, on n'est pas parce que les autres le sont.
Des fois, ça donne une...
Les gens les écoutent, de quoi vous allez parler? Donc, Rachel, dis-nous.
On va quelque part.
Parce que toi, t'es expert, donc, voilà.
On va démarrer avec une définition, des formations, professionnelles, académiques. Définissons nos concepts, n'est-ce pas? Donc, on y va avec le perfectionnisme. Qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, tu l'as dit Annabelle dans ton introduction, c'est se fixer des standards élevés, peut-être trop élevés, on va voir, parce qu'ils sont excessifs même. Donc ce qui va avec aussi, c'est une deuxième dimension, c'est l'auto-évaluation qui est critique envers soi-même, envers d'autres. On va voir aussi comment il est axé cette critique aussi. Et puis enfin, nous avons la peur constante de l'échec. Enfin, on y va. Là où le syndrome de l'imposteur, comme on en a parlé précédemment, c'est pas forcément sur l'échec, ça porte, c'est pas central, si vous voulez, dans le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt ne pas s'attribuer les réussites. Dans le perfectionnisme, c'est une grosse peur de l'échec, en fait, qui se traduit là.
D'accord.
Donc ça, c'est quand on regarde en fait à la définition. Après, je disais qu'il y avait trois formes. Là aussi, ça va peut-être apparaître à l'écran. Trois formes, trois niveaux, en tout cas de perfectionnisme. On a le perfectionnisme qui est orienté envers soi. Donc là, on va avoir une auto-exigence extrême, très dur envers soi-même. Ensuite, il y a la forme sociale, donc besoin d'être parfait pour être accepté. Et puis enfin, nous avons orienté vers les autres, où là, on a une exigence extrême, mais envers les autres. Finalement,
est-ce qu'on peut avoir juste un des trois, ou est-ce qu'on peut aussi avoir les trois?
On peut avoir un des trois, on peut avoir les deux, on peut avoir trois.
Ok, c'est, d'accord.
Encore une fois, comment ça se manifeste pour la personne?
Et comment tu peux expliquer d'avoir d'être très perfectionniste envers les autres,
mais pas pour toi?
Et pas pour soi.
Alors bon, ce serait compliqué, mais je pense qu'il y a de l'ordre aussi de comportements psychologiques qui vont derrière. Je suis pas psychologue, donc à ce moment-là, tu sais, je vais pas m'engouffrer dans cette porte complètement. Mais néanmoins, je suis consultante pour un test de personnalité, et puis on peut voir que il y a des traits, tu sais, chez les manipulateurs qui eux ne se voient pas faire, ne se voient pas aller, mais par contre qui imposent une façon de faire à d'autres, et donc être très exigeant, et ça va paraître pour du perfectionnisme sur certains aspects, pardon.
Ok, d'accord. Et comment alors ça va se traduire, le perfectionnisme, dans une vie au quotidien, en fait?
Alors, ouais. Alors, comment ça se manifeste? Ça aussi, ça va apparaître à l'écran. C'est qu'on va avoir une autocritique excessive, je l'ai dit, hein. Donc vraiment des comportements très, très, très durs envers soi-même. C'est des mots qu'on n'oserait même pas donner à sa meilleure amie, son conjoint, sa conjointe, enfin ses enfants, peu importe. Donc c'est vraiment envers soi beaucoup. La peur de l'échec aussi, la procrastination, ça nous rappelle peut-être un comportement qui pourrait ressembler aussi au syndrome de l'imposteur. Difficulté à déléguer. Alors là, il y a une petite nuance qui se dessine. C'est comme je suis très exigeant dans les tâches et les résultats que j'attends, je vais le faire moi, au moins, je ne serai pas déçue. Et je vais atteindre les standards de qualité que je me suis fixée. Donc c'est ça, difficulté à déléguer. Il y a aussi la recherche constante de validation. Donc là, on recherche quelque chose. Et puis la conviction que sa valeur dépend de sa performance.
Finalement, t'es perfectionniste. Non, j'analyse les autres bizarrement.
De moins, mais oui.
Ok. C'était quoi, toi, comment ça se traduisait ?
Surtout la valeur qui dépend de la performance. Et j'ai déjà apporté... Ben, moi, quand j'étais petite, je recevais, des, ben, comme tous les enfants, les cartes d'anniversaire. Et mon père, surtout, me disait qu'il y a un papa super, hein, mais médecin au niveau, tu vois. Il me disait toujours, je t'aime beaucoup et je suis fière de toi. Donc, c'est une phrase qui a été toujours associée. Moi, l'amour, c'est la fierté. Donc, si je performe, je suis aimée. Donc, aller bac, maîtrise, doctorat, médaille du gouverneur général, post-doctorat. Donc, inconsciemment, c'était vraiment plus je performe, plus je réussis, plus je suis aimée. Donc, ça a été vraiment une clé où, le jour où j'ai laissé mon travail de scientifique et osé dire à mon père, ben, finalement, je m'en vais comme pasteur. Donc, ce qui était pas très populaire pour lui, tu devines. Donc, je pense que ça m'a aidé à guérir un peu, de dire ce que j'ai dit lundi, à qui je veux plaire, aux hommes ou à Dieu. Donc, ça m'a aidé à dire, ben, je peux être aimée, même si je plais pas à tout le monde. C'est là que ça a été. Mais j'ai encore la notion d'excellence, là, c'est beaucoup associé à ma valorisation, à être aimée. J'y travaille. J'y travaille.
Comment t'expliques la procrastination?
Oui, moi aussi.
Dans le perfectionnisme,
je me demandais,
Ouais, là, c'est une nuance qui est pas évidente à exposer, mais encore une fois, c'est quand on se voit pas aller, on se voit pas faire, on va imposer, donc on est dans une autre, dans les trois formes, en fait, en haut. C'est peut-être pas une exigence envers soi-même, la procrastination, mais elle est destinée peut-être à autrui. On impose ses standards, ses qualités, et puis nous.
Ok.
Voilà. Mais c'est une forme de perfectionnisme aussi. Parce qu'elle est à trois niveaux. Elle est orientée soit vers soi, soit de manière sociale. Je dépends du regard des autres, ou soit je l'impose aux autres.
Ouais, ou bien peut-être quand tu sais qu'il faut que tu performes, que ça te demande de l'énergie, puis qu'il faut que tu sois à la hauteur, puis ben tu dis, je vois.
Il y a une soupape.
Ouais, ben je vais peut-être procrastiner parce que quand je vais le faire, il faut que je sois au top là. Donc
Et toi, tu disais, mais tu es perfectionniste, on veut pas.
Oui, clairement.
On veut pas balancer ma vie.
Merci d'avoir apporté ça à la table.
Mais parce que moi, je l'ai vu comme ça.
Ah bon, ça vous dérange?
Pardon.
Non, je disais, Mathieu est perfectionniste et Mathieu n'est pas encore. Mathieu, celle qui l'a dit. Hein. Mathieu n'est pas encore venu à table après avoir invité Jérémy. Je ne sais pas si je veux continuer dans cette danse. Mais
le Mathieu sera jamais comme ça.
Il se prendra pas pour Jules César. Non, c'est bon. Mais comment de vivre avec quelqu'un qui est perfectionniste? Toi, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu sais qu'il est perfectionniste?
Je le sais parce que justement, il est très exigeant envers lui-même et envers et du coup envers les autres. Puis je pense que bon, je t'aime, chérie. Hein, mais je pense qu'il y a toujours le mot extrême dans la définition que tu as donnée. Je pense que c'est là que je sens la différence, c'est que il y a un besoin que ce soit toujours parfait. Okay, ouais. Donc si admettons, je vais faire quelque chose, moi pour moi par exemple, je vais me surpasser en ayant peut-être accompli une tâche ou sorti, admettons, un cours, une vidéo YouTube, ouais, peu importe. Ça va sortir de ma zone de confort parce que naturellement, je suis pas forcément très organisée, je suis pas forcément à l'aise derrière la caméra. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup de travail, d'effort. Ça va me demander énormément. Mais lui, s'il y a, par exemple, une petite chose qui a mal été faite ou une chose qui, justement, c'est pas parfait, bah, il va se focaliser là-dessus premièrement, ouais, avant de dire, mais bravo, parce que tu as bien, parce, ouais, que finalement, tu l'as fait quand même. Mm-hmm. Et c'est en ça que je vois qu'il est perfectionniste. Et je pense qu'il a le perfectionnisme premier et troisième niveau. Ouais. Parce que, c'est comme ça. Si les gens ne le font pas parfaitement, il va vouloir le faire lui-même. Il va dire, finalement, je me débrouille mieux tout seul. Et malheureusement, c'est vrai, étant donné qu'il est très exigeant envers lui-même, puis je pense qu'il est aussi un HPI un peu, je pense qu'effectivement, dès qu'il touche à quelque chose, il le fait extrêmement bien. Et donc du coup, toi, quand t'es à côté, tu dis, c'est vrai, en fait, je suis pas aussi bonne, je suis désolée,
excuse-moi. J'étais à mon max.
Non, mais du coup, je comprends ce niveau d'exigence, ouais, mais c'est le mot extrême où des fois c'est comme, c'est pas parce que c'est pas fait comme toi tu veux que c'est pas bien fait ou que ça va pas porter du fruit.
Là, on voit les traits de personnalité clairement se dessiner. C'est pour ça que je dis, il y a certains comportements qui pourraient me faire passer comme étant moi personnellement perfectionniste, parce que dans ma personnalité, je suis portée sur les détails, je vois ce qui ne fonctionne pas. C'est comme ça. Il y a un truc qui va pas, je vais mettre le doigt dessus. Ce qui pourrait agacer mon mari, qui lui est à l'opposé. Lui, les détails, ça ne le concerne pas. Donc c'est sûr que ça pourrait être agaçant à la longue. Mais en vrai, je suis capable de composer, de faire moins bien que ce que je me suis fixé comme standard. Parce que, par exemple, c'est moi qui m'occupe de tous les visuels dans mon entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux, les formations. C'est tout moi. J'aime ça. C'est dans mes forces. C'est pour ça que c'est moi qui le porte aussi, c'est dans mes forces. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu les tests de personnalité, j'ai un bleu très élevé avec une motivation esthétique très élevée. Donc j'aime ça que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit bien. Voilà, c'est facile pour moi. Donc je fais ça, je le fais vite. C'est vrai qu'avant, je mettais 2 heures pour le faire. Un truc qui pourrait prendre 30 minutes, c'est vrai. À force de me le faire dire, je conçois que c'est vrai que là, je pinaille sur des petits détails. Donc j'ai redescendu mes standards et je le vis très très bien. C'est vrai que sur le coup, c'est mon mari qui m'a fait les remarques parce que je faisais aussi les visuels pour l'église, pour ses publications, n'est-ce pas? Et ça l'agaçait que je prenne 1 heure à juste mettre en forme sa trame, voilà. Et il me dit quand même, tu pourrais le faire, ça va, t'es pas obligé de faire autant. Comment ça, je suis pas obligée de faire autant? Mais j'aime que ce soit bien fait quand même. Et puis à force de me le dire, puis à force de voir effectivement, tu sais, balance, effort, bénéfice, je peux faire un peu moins bien, et personne va le voir.
Va voir la différence.
C'est juste moi là, qui me suis mis ces standards. Et finalement, en bout de ligne, je le vis très bien, ça me fait gagner du temps, et pour mon entreprise, et pour le ministère, et pour tout, partout. Donc c'est là que je ne me reconnais pas forcément dans le perfectionnisme, mais c'est un trait de personnalité qui est vraiment inhérent à la personnalité bleue, qui est portée sur les détails, qui aime que ce soit bien fait, que ça respecte des normes, des règles. Puis il y a le côté rouge aussi, qui est aussi porté sur la tâche, c'est à ma façon, sinon rien d'autre. Voilà. Donc c'est des traits de personnalité qui renforcent des comportements.
Est-ce que ça peut être de l'ordre de notre environnement aussi, parce que moi les détails pas tant mon truc, pas la tâche non plus, mais j'avais une mère très très, voilà, qui nous a mis un peu de pression, quoi.
Et oui, donc c'est acquis, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est socio-construit, tous ces comportements que nous avons finalement communicationnels, que ce soit ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos comportements, tout ça traduit une forme d'éducation dans laquelle on a baigné. Et tu l'as très bien expliqué aussi dans le syndrome de l'imposteur, il y avait un lien là aussi dans le perfectionnisme, dans l'éducation, il y a un lien. Quand même dans les milieux de travail, quand on valorise la performance, quand on valorise la compétition, il y a des corps de métier, tout est basé sur la compétition. Ceux qui sont représentants, qui sont commerciaux, etc., il faut qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, ils sont un petit peu en compétition les uns avec les autres. Puis, c'est ça qui est valorisé, attendu. Ah, vous avez vu un tel, maintenant, il est numéro 1 du tableau. Faites comme lui le prochain mois, etc., etc. Donc, on valorise tout ça, la performance. Et donc, on va renforcer aussi des traits. Même si on ne l'est pas profondément, il y a des choses qui vont le devenir par acquis.
Est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif, le perfectionnisme? Parce que la manière dont tu décrivais tes traits de caractère, c'est un... Ou est-ce que c'est... comment on appelle ça finalement? Parce que t'es quand même dans le détail, donc dans le perfectionnement, perfectionnisme, mais en même temps, c'est pas dans l'extrême non plus. Donc comment on différencie justement bah, ton type de personnalité
Ben, vraiment, c'est dans le terme de excessif. Est-ce que tu l'es à quel point en fait? Comment ça se manifeste pour toi? Et en entretien d'embauche, on va souvent poser la question, nommez-moi trois qualités, trois défauts. Il y en a qui sont malins, qui vont nommer des qualités, des faux qualités.
Bah, des beaux défauts, voilà.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est pareil, en fait, dans les tests de personnalité, quand j'annonçais les forces, moi, après, ce que j'aime à nommer, c'est les points de vigilance. Donc, c'est attention, petite sonnette d'alarme, ça dépend. Le perfectionnisme, c'est bien quand tu... parce que tu as une rigueur professionnelle, que tu t'imposes un leitmotiv, que tu respectes les normes. C'est beau, c'est vertueux, tu sais, puis c'est respectable. Et puis dans plein de métiers, il faut le faire. Et c'est beau parce que ça pousse à élever un petit peu le niveau, hein, parfois. Donc c'est bien, mais ça dépend jusqu'à quel point. Est-ce que là, ça t'isole? Est-ce que là, ça te rend excessif? Est-ce que ça te rend exécrable? Est-ce qu'on a envie de collaborer avec toi? Est-ce qu'on n'a plus envie de te demander rien du tout? Est-ce que tu délègues? Tu ne délègues jamais. Mais alors, si tu délègues pas, tu ne pousse pas la personne à se développer aussi professionnellement parlant, se dépasser elle aussi, puis apprendre elle aussi. Donc il y a tout cet ordre-là, puis même ça se voit dans l'éducation, j'ai envie de dire. Hein.
Ouais, je m'en allais, oui. Ouais. Mais aussi comme mère, on est perfectionniste avec nos enfants, mettre de la pression, on va le faire à leur place, c'est pas fait assez rapidement. Voilà.
Avec nos enfants et avec nos maris aussi. Ah. C'est vrai, des fois on peut être comme ça aussi. Ouais, au lieu d'encourager, on est là à vouloir prendre le relais parce que c'est...
Quand si on est une personne perfectionniste, tu comprends que pour cette personne-là, c'est vital en fait. C'est pas un détail. On n'est pas de l'ordre du détail. On est tout est important et cette chose qui n'est pas là à ce moment-là, ce trait, cette couleur, bref, c'est comment est-ce que on peut réussir à relativiser? Est-ce que c'est juste relativiser ou qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour prendre un pas de recul et se dire mais là je suis excessif? Parce que t'en as pas conscience, personne ne veut être excessif. Et beaucoup de gens perfectionnistes vont dire non, ça c'est de l'excellence, vont dire non mais ça va faire toute la différence, ou vont dire bah, ou ça peut même être plus agressif, mais toi tu te contentes de ça, etc., pour un peu couvrir ce perfectionnisme. Mais personne veut être dans le fond comme ça. Alors comment faire pour s'en rendre compte et puis faire ne pas aller dans cet extrême?
Ben déjà le nommer, savoir se reconnaître qu'on est dans ce trait là où on n'y est pas, déjà de pouvoir reconnaître que ok, en fait j'ai vraiment une tendance perfectionniste, mais peut-être pas la bonne définition, ou en tout cas ça ne donne pas les conséquences que j'aimerais sur les autres, parce qu'on parle toujours sur un effet, l'effet que l'impact que nous avons les uns sur les autres. Si tu veux, le travail, tout le monde est d'accord pour dire waouh, c'est super bien fait, c'est parfait, c'est génial. Par contre, j'ai détesté collaborer sur ce projet là avec cette personne là ça a été un calvaire. Donc c'est aussi de se rendre compte les effets que j'ai sur les autres finalement. Quel genre de dirigeante je suis, quel genre de manager je suis, ou juste coéquipier en fait finalement. Est-ce qu'on a envie de faire du ministère avec moi? Est-ce qu'on a envie de travailler avec moi? Finalement, je me retrouvais isolée. Bon, il y a des personnalités, ça leur va très bien, ils aiment ça travailler seuls. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, vous ne dérangez personne. Mais alors à ce moment-là, vous vivez avec quelqu'un aussi. Et puis on le dit, on n'est pas perfectionniste juste au travail, on n'a pas le syndrome de l'imposteur juste au travail, etc. On l'emporte partout, notre personnalité. On la remporte aussi dans notre cercle privé, familial. Et puis là, quel genre de conjoint je suis, mari, encore une fois, enfant même, parent. Donc c'est en fait, c'est le rapport à l'autre. Donc une fois qu'on a nommé, ok, je suis plutôt dans ce trait-là excessif. Dans quel domaine je le repère? Dans quel domaine je le suis peut-être davantage? Ça se pourrait que sur d'autres, un petit peu moins. Et en fait, c'est quoi le résultat que ça produit, les impacts que ça fait autour de moi? Donc déjà, je pense que c'est des bonnes questions d'introspection à se poser. pour pouvoir opérer et pouvoir un petit peu se réajuster.
Quand tu te rends compte qu'on te confie un projet et on te demande, non mais fais-le tout seul, sois autonome, sois autonome.
Ou bien, on donne un projet, mais prends pas 3 mois pour le faire, prends une semaine, prends une semaine. Ouais. Non, là, parce que dans le perfectionnisme, c'est le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire que si ça prend trop de temps, ton patron il va dire, mais c'est pas possible, il faut que ça soit plus efficace. Donc ça aussi, c'est une clé, je vais dire, le temps que ça prend. Comme tu disais très bien pour... les pubs que tu faisais ou les slides, visuels. Ouais, les visuels. Ouais.
Et tu vois, dans le couple, quelquefois, on voit ça, des dynamiques de couple. Il y en a un qui va être perfectionniste. Bon, on va dire que ça va être l'homme qui va être perfectionniste. Et du coup, il peut passer, bah, il peut sembler pinailleur. Et genre, tu vas monter un meuble et il va être dans le détail et tout. Et tu vois la femme à côté, mais elle veut juste son meuble, en fait. Et elle est en train de vivre toutes les émotions possibles. Tous les fruits de l'esprit passent. Et tu vois, t'as l'impression, quand toi tu l'es pas, qu'il y a une perte de temps. Que de dire, mais dans le perfectionnisme, est-ce qu'il n'y a pas une notion de productivité peut-être qui rentre, notion de bon sens ou quelque chose comme ça, et que tu sais, la personne a comme l'air quelquefois dans son monde, en fait, genre elle t'a oublié, elle oublie tout le bon sens, et
elle
puis il y a toute une maison à monter, il y a, et puis tu te dis, mais attends, mais si on fait ça avec tous les meubles, on est mal barré.
Sauf que des fois c'est à double tranchant, parce que moi le mien aussi il est perfectionniste, mais moi je veux que ça aille rapide. Toi, moi je suis plutôt rapide, donc quand je veux faire rapide, mais le meuble il tient pas là, quoi. Il y a 3 pattes la table. Donc lui, il va dire, toi, je te l'avais dit, tu vas aller prendre son temps. Donc c'est pas facile dans un couple, ouais. Ça, entre les meubles sont bien montés ou rapidement montés, c'est juste ça.
C'est ça, c'est une différence de production, effectivement. Mais c'est un bon point, effectivement, le délai.
Oui.
Quand quelqu'un est trop perfectionniste, il va avoir tendance à vouloir prendre plus de temps. Puis là encore, on parle de surmenage aussi. On va prendre le temps nécessaire. Bon, ben, vu que c'est mon exigence à moi, la personne va se dire, ben, c'est pas grave, je veux le faire un petit peu en dehors des heures de travail. Je vais fournir du travail supplémentaire, ça va aller. Puis j'aurai le résultat que moi je veux et puis qu'on reconnaisse de moi aussi. Donc là aussi, il y a un épuisement total. Et peut-être qu'on pourrait aider ces personnes-là, leur mettre des deadlines, peut-être, en lui disant, ben là, tu sais, on attend ce résultat-là. Donc je sais que tu vas y mettre beaucoup de temps parce que c'est important pour toi, que tous les détails, donc effectivement on reconnaît que c'est ta force à toi, en revanche on veut que ce soit fait ça et je ne veux pas que tu te tues ta santé. Tu sais, on veut une attitude bienveillante aussi envers ces personnalités là on veut les respecter aussi dans leurs besoins, parce que parfois c'est un besoin en fait qui est caché derrière. Donc intéressant. Puis j'avais aussi quelque chose à vous présenter en termes de slide, c'est les visages du perfectionnisme. Alors on a...
Quelle tranche.
À quoi je ressemble? Donc nous avons plusieurs visages sur le perfectionnisme. Nous avons l'acharnée. Donc l'acharnée, elle se dit, je dois toujours en faire plus, sinon je ne vaux rien.
Okay.
Donc
elle ou lui, valeur. Hein.
Oui.
C'est pas forcément là du coup un désir de que ce soit bien fait. C'est plus là dans la quantité.
Là c'est la valeur qu'elle a dans sa performance.
Ok. Mais c'est aussi relié plus à la quantité.
Ouais, je dois en faire plus, je dois produire plus, je dois montrer que je sais faire, je suis performante, etc.
D'accord.
Je trouve ma valeur dans le perfectionnisme.
Oui. Donc si on te demande un texte de 10 pages puis t'en fais 300, c'est...
Ah ben alors là, c'est là que... il pense qu'il a réussi.
Ouais.
Parfois c'est des critères qui sont rédhibitoires d'ailleurs de dépasser le nombre de...
Ouais. Mais toi t'as l'impression que t'as bien fait.
Exactement. Donc l'insatisfait chronique, tu vois, je genre plus, je garde la neutralité du masculin. Donc l'insatisfait chronique,
pour une fois le masculin l'emporte comme ça.
Je suis bien content. Hein. Donc là, cette personne-là, elle se dit, ce n'est jamais assez bien. Donc là, évidemment, une personne, je traduis, elle doit enregistrer une émission sur YouTube, etc. Donc elle se retrouve derrière un micro, au moindre mot qui fourche. Ouais. Au moindre truc, et ben on recommence.
Ouais, mais ça c'est
peut-être qu'il y a des choses qui déteignent. Ouais. Mais tu sais, des fois ça suffirait de reprendre le mot, de dire excusez-moi, et puis ça passe très très bien en fait pour la plupart des gens, hein. Sauf ceux qui sont portés sur les détails forcément, mais on pourra pas plaire à tout le monde non plus. Et puis on compte sur la bienveillance humaine, n'est-ce pas? Nous sommes humains, parce que je pense que ça aussi c'est une notion qu'on va rappeler dans le perfectionnisme. Ensuite nous avons l'auto-saboteur.
Ah.
Ouais, celui qui s'auto-sabote. Donc, si ce n'est pas parfait, mieux vaut ne rien faire.
Ok. D'où la procrastination, là, peut-être.
Ouais, c'est ça.
C'est même plus la procrastination. Voilà, dernière minute, etc. Mais là, c'est carrément, je ne le ferai pas, je ne le produirai pas. parce que je sais que je peux pas le faire, je n'y arriverai pas, les délais sont trop courts, c'est impossible de tenir. Enfin bref, on va se raconter toute une histoire.
Et ça peut être même dans une équipe, tu sais, quand tout le monde est motivé, on lance une vision, tu as toujours le passeur de rêve. Non, non, vous serez jamais capable, ça sera jamais assez bon. Ça, c'est vrai, dans une équipe, il y a ça.
C'est ça. Et puis enfin, on a le dernier qui est le dépendant à l'approbation.
Ah. Voilà.
Là, 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 là. Et puis là, dans sa tête, c'est plutôt si on ne me valide pas, je ne suis rien.
Donc là, encore une fois, c'est comme pour le syndrome de l'imposteur, le spectre est quand même assez large. Oui. Finalement, même Sandra a découvert qu'elle pouvait être perfectionniste.
Encore une fois, c'est du bon perfectionnisme, pas à l'extrême.
Mais du professionnalisme, peut-être, tu vois.
Et de l'excellence. Je pense que c'est aussi un désir intense de l'excellence, mais je pense que c'est là la barrière entre je veux que ça soit excellent et le côté où là je m'obstine, que ça soit du c'est dur à dire.
Perfectionnisme.
Pour que ce soit du perfectionnisme, je pense qu'elle est, je pense que je peux me retrouver un peu là-dedans parce que oui, on a tous des traits de caractère où on veut aussi quand même que les choses soient bien faites. Mais moi, c'est vraiment le mot extrême qui me.
Ouais. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça le baromètre qui nous fait dire, bon, bah là, on a basculé de l'excellence au perfectionnisme. Et puis, l'autre chose, la balance, en fait, de l'effort et résultat. C'est de se dire, bah, il y a 98% du travail qui a été fourni, et on va dire peut-être en 5 heures, et que ce 2% qu'on a voulu atteindre parce qu'on avait un désir de perfection qui a pris le triple de temps finalement, bah, tu te dis, si on met tout bout à bout, c'est sûr que ça va être un résultat qui va être mitigé. Et ça va être un résultat par rapport même à nos supérieurs qui ont pu nous demander quelque chose, mais même par rapport à nous, en fait, si on est honnête. Parce que dans ces 2%, à la fois, s'il y a une quête, tu veux atteindre ces 2%, ils sont hyper importants. Mais en même temps, ces 2% qui ont été hyper durs et désagréables à obtenir, et que toi-même, même si tu es perfectionniste, tu te rends compte, en fait, que tu as vécu beaucoup de frustration. C'est le moment où les gens t'abandonne aussi. Il y a plus personne qui veut suivre. Ben non, là, on voit plus le but, là. C'est plus la peine. Et d'avoir l'humilité, puis le courage de se dire, OK, ben en fait, ces 2%, ils me font perdre tellement à chaque fois que, est-ce que j'ai assez de crédit de tout, tu vois, émotionnel, relationnel, financier, de temps, pour me permettre de tout le temps me battre et de me tuer quasiment pour ces 2%. Et je pense que ça, c'est une question, si nous, on n'a pas le courage d'y répondre, le Saint-Esprit peut venir mettre le doigt dessus et le rappeler, et d'avoir un petit rappel, peut-être dans les semaines à venir, tu es dans le 2% qui va te coûter très cher, soyez attentive.
Mais la validation aussi, tu sais, je veux être excellente pour être aimée, tu sais, si je me démarque, c'est vrai, il y a toute la...
Surperforme, parce que c'est même plus performer, là, c'est surperformer à chaque fois. Et puis, on n'est pas des machines, ça aussi, on le répète beaucoup dans le milieu du travail, l'homme n'est pas une machine. Tu sais, depuis l'ère de l'industrialisation, le fordisme, etc., on a eu tendance à voir les humains comme des travailleurs à la chaîne, puis d'être réguliers tout le temps dans leur performance, etc. Sauf que non, quand on prend des graphiques de performance, la machine, elle est constante, ça va être un grand trait, peut-être même en haut du graphique, mais l'être humain, lui, va avoir tendance à avoir des zones où il performe, puis des zones où il est fatigué et puis il doit se ressourcer et puis il va remonter. Mais finalement, sur la constante, on fait des belles choses, nous aussi, les êtres humains.
Nous aussi, hein, finalement.
Et de très beaux résultats. Donc ça aussi, il faut arrêter de chercher. C'est la surperformance, c'est fatigant. Et puis, vient de redéfinir, justement, tu parlais d'excellence versus, en fait, le perfectionnisme. Il y a vraiment une grosse différence. Le perfectionnisme, c'est une illusion. Personne n'est parfait. Nous sommes humains. À un moment donné, tu vas le fourcher.
C'est une illusion.
À un moment donné, tu vas pas l'avoir tout le temps. C'est pas vrai. On est fatigué. On a des soucis. On a une charge mentale. On pense à autre chose. On a plein de bruits internes qui peuvent nous empêcher de faire le livrable qu'on voudrait. On a un discours à l'intérieur. Enfin bref, il y a plein de choses, des soucis de la vie, etc., qui font que le perfectionnisme est une illusion. En revanche, l'excellence, c'est une discipline. C'est une belle marge de croissance, en fait. OK, et c'est erreur. Ça a fonctionné. Ça a moins bien fonctionné. Oh, là, franchement, je me suis dépassée. J'ai fait des progrès, mais c'est beau. Et on poursuit l'excellence, en fait, quand on est dans une démarche de croissance, de développement.
L'excellence est une discipline.
Ah, ça c'est bon, Zara. J'allais
que ouais, ça. Non, mais ça laisse à méditer.
Ça laisse. Je veux dire, on a notre part de responsabilité dans l'excellence. Et tu vois, autant je pense, il y a des gens qui vont vite. Je suis pas perfectionniste. Et mais du coup, qui ne sont ni excellents.
Une excuse des fois de pas vouloir être perfectionniste peut être une excuse pour finalement même pas être
accepter d'être brouillant.
Voilà, accepter d'être brouillant.
Mais c'est vrai que ça, le fait de dire l'excellence est une discipline. Oui. Bah, est-ce que j'ai une discipline dans ma vie pour arriver à atteindre certains objectifs? Et si ma seule réponse est « je ne suis pas perfectionniste », ça veut peut-être dire qu'on est quand même en dessous de la moyenne et qu'on se contente de la médiocrité. Donc le but de l'émission, c'est pas non plus de se dire « ah bah les détails, ah bah on s'en fiche, faites écoutez tous vos sentiments, vos émotions, etc. » Mais c'est juste de ne plus tomber dans l'extrême, ce mot qui t'aime tellement...
Et aussi, c'est dans nos cercles chrétiens aussi, parce qu'il y était une période où, et ça enlève rien au Saint-Esprit, on peut combiner l'excellence et le Saint-Esprit. Mais des fois, dans nos cercles chrétiens, que ce soit dans la louange ou dans la prédication, on ne se préparait moins où on disait le Saint-Esprit allait nous guider.
Ah, mais c'est vrai.
Soyons honnêtes.
Ah oui, moi, j'ai, tu sais, mais.
Ça commence à 10 heures, j'arrive à 10 heures.
Jamais. Ça m'est arrivé récemment. Le musicien est arrivé pendant que la louange avait commencé, tu vois. Donc, il y a quelque chose. Et je me dis, et moi, je pense qu'on oppose des concepts qui devraient être ensemble. C'est-à-dire, je peux être viser l'excellence et avec le Saint-Esprit et non. Et dans les deux cas, il y en a qui sont trop dans l'excellence et pas assez dans le Saint-Esprit. Et trop, des fois, ils disent, kumbaya, le Saint-Esprit va tout faire et c'est moche sur toute la ligne, tu vois. Donc, il faut. C'est un alliage, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Rachel? Oui.
Bah, tellement, c'est encore une fois un équilibre à aller chercher. Et effectivement, j'ai la même expérience que toi, là, des prédicateurs qui se levaient et puis, j'ai rien préparé,
voilà. Ben, c'est moche aussi. Non, excusez.
Le conducteur de louange qui est arrivé, alors donnez-moi les numéros, là.
Laissez-moi nuancer. Il y a des fois, c'est vrai que le Saint-Esprit, je nuance.
Évidemment.
C'est drôle. Mais c'est vrai que c'est drôle que plus on est préparé, des fois, plus le Saint-Esprit peut agir.
Et on peut vivre aussi le perfectionnisme, un perfectionnisme spirituel, parce que on se dit Dieu est très exigeant, Dieu est parfait, donc bon, je comprends, toi t'es un peu perfectionniste et tout, mais bon, t'es juste humaine, c'est un défaut que t'as, mais on se dire et de bon cœur, hein, ça, avec un bon cœur, Dieu est parfait, donc il attend la perfection et la Bible nous encourage à devenir parfait aussi et du coup ça peut mettre une forme de fardeau et dans le sens où on se dit c'est ce que Dieu attend de nous et si je ne suis pas parfaite, Dieu sera constamment déçu de moi, Dieu ne sera pas satisfait, Dieu n'aimera pas qui je suis ni la relation qu'on a et le vivre ce perfectionnisme spirituel, bah ça va être les mêmes tout ce que tu as dit, en fait, ça va se manifester de cette façon-là. Et je pense notamment à la procrastination. Il y a des gens qui ne vivent rien spirituellement parce qu'ils se disent c'est jamais assez. Et tu sais, ça va être comme je veux jeûner. Non, je peux pas jeûner juste un repas, c'est nul. Et du coup, il faut que je fasse un 40 jours. Mais ton 40 jours, il arrive jamais, en fait. Parce que c'est plus difficile de préparer un 40 jours de jeûne que de... Je n'ai un repas. Et il faut que je lise ma Bible. Il faut que je la lise tout en entier, en 3 mois, tu vois, ou en 1 mois. Et tu te fixes des objectifs. On va couper, hein, parce que j'ai perfectionné.
Non, c'est pas grave,
t'inquiète pas.
On est humain.
Ok, c'est bon. La machine n'est pas une machine. Tu te fixes des objectifs inatteignables. Et ça va te paralyser ou alors ça va te faire faire des choses. Je parlais du jeûne de 40 jours. Il y a des gens qui vont faire un jeûne de 40 jours à cause du perfectionnisme spirituel et ça va engendrer ça va pas fonctionner et ça va engendrer des problèmes de santé, ça ou des choses même des délires, des machins, etc. Et tu te dis mais comment ça se fait? Parce que ça a été suscité par un perfectionnisme de se dire Dieu attend ça de moi et c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois être et du coup on fait des choses qui sont je le dis pas bien, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, qui sont trop élevés pour là où on en est, en fait. Et par exemple, faire un jeûne de 40 jours, franchement, on se lève pas un matin, et puis je fais un jeûne de 40 jours parce qu'il y a quand même des conséquences, parce que je dois me préparer, et que si j'ai pas reçu une parole du Seigneur, c'est dangereux, en fait, de faire un jeûne de 40 jours, comme de dire, ok, je pars faire une retraite de 3 mois, et puis tu quittes femme et enfant, c'est comme Dieu t'a pas parlé, oui, mais c'est parce que, tu sais, Dieu veut qu'on... qu'on puisse s'attacher premièrement à lui, etc. Là, 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 celui qui quitte son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. C'est un extrémisme religieux, en fait. Et de veiller à ça, parce que il peut y avoir, à cause à la fois de l'éducation qu'on a reçue, qu'on va le retransposer dans notre vie chrétienne. Mais si c'est extrême et que ça nous fait avoir des comportements extrêmes qui commencent à questionner les autres et à mettre mal à l'aise les autres et à créer des situations complexes autour de nous, d'avoir l'humilité de se dire, ok, est-ce que est-ce que je suis pas en train de déraper, en fait? Ouais. Mm-hmm. Et Rachel, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que t'as déjà donné des pistes, mais est-ce que t'as encore d'autres pistes pour nous pour sortir, soit si on est perfectionniste ou on connaît des perfectionnistes?
Sans citer de nous.
On
en a déjà cité trop.
Là, le perfectionnisme aussi, c'est pas évident parce que la personne parfois ne se voit pas faire, ne se voit pas aller, mais vraiment de faire le bilan, quelles sont les conséquences autour de moi. Donc ça, c'était une des pistes que j'ai annoncées depuis le départ. Et puis, en fait, à qui je cherche à plaire, en fait. Beaucoup dans le perfectionnisme. Ouais. Alors, c'est pour me satisfaire moi. Ok, j'ai une forme d'exigence envers moi. C'est vrai que, bon. Mais si ça commence à avoir à déteindre, en fait, sur les autres, là, il faut se poser des questions, se ressaisir. Et puis, comme tu le disais dans le cadre spirituel aussi, c'est, je cherche à plaire à qui, en fait? À Dieu? À moi? Je veux, ça nourrit quoi, en fait?
Exactement.
Ça nourrit quoi? Ça nourrit une forme d'orgueil, une forme d'ego, une forme de satisfaction. Et en fait, elle est insatiable, cette satisfaction, quand tu vas la chercher avec le perfectionnisme, encore une fois. J'ai dit, le perfectionnisme est une illusion. Or, l'excellence, c'est vraiment aller chercher la croissance. Donc, dans la croissance, on comprend qu'il y a des étapes. On va commencer petit, comme tu le disais, et puis on va commencer à un niveau. On commence quelque part, là où on en est, nous. Et Dieu est bienveillant, Dieu est un bon et tendre Père, et il nous prend là où on en est. Il fait sauter des étapes à personne, là. Il demande à personne de partir, comme tu disais, d'un coup, dans un couvent, je quitte femme et enfant, et puis voilà, c'est mon ministère, c'est maintenant, c'est... Non, il y a un équilibre en toute chose. Et puis, tu comptes sur qui quand tu fais ton œuvre? Tu comptes sur toi, sur ce que tu sais faire, sur tes compétences, sur ce que tu as appris. Ça, avec ce que j'ai, ce que je suis, je peux faire ce résultat-là et je vais le faire bien. Mm-hmm. Parfait. Où est Dieu dans l'affaire? Mm-hmm. Où est sa grâce? Où est le Saint-Esprit quand tu fais les choses? Avec quoi tu le fais? Avec tes propres forces, que personne ne se glorifie en quoi que ce soit. Je n'ai pas à me glorifier, que ce soit pas, que je ne dise pas que c'est ma main qui m'a acquise de ces choses-là. Là, on va revenir à des choses très profondes, en fait. Donc, ma confiance, elle est en qui? Elle est en Dieu. Si je peux faire telle et telle chose, c'est sa grâce qui me suffit. Et la perfection, encore une fois, je le répète, c'est une illusion. C'est un truc qu'on ne pourra pas atteindre sur la longue. C'est pas possible.
Mais aussi les conséquences. Tu vois, je trouve que le perfectionniste, quand on s'évalue, et on a tout à s'évaluer, c'est de dire, c'est comme un beau défaut, tu comprends? C'est difficile, par exemple, dans un couple, de dire, t'es perfectionniste, je vais dire, ben non, moi, j'offre le meilleur. Mais de regarder les conséquences, comme tu le disais si bien, si personne veut travailler avec moi, si je suis épuisée, parce que, tu sais, des fois, les femmes disent, oh, je suis fatiguée, ben peut-être parce que c'est trop, c'est du tellement pas tout ça, mais c'est camouflé. Moi, je trouve que le perfectionniste, c'est quand même un défaut qui est pas si mal, tu vois. Non, mais tu sais, t'as des défauts.
C'est vrai, mais je pensais pas que c'était un défaut au départ.
Ben, à la limite, oui, si les gens, ils veulent plus travailler avec toi, si tu t'épuises, un défaut, on s'entend, un trait de personnalité qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences négatives pour toi-même ou pour les autres. Donc, peut-être de pas embellir ça, de dire, ah, oh, moi, je suis perfectionniste, mais de dire, est-ce que ça laisse des traces dans la vie des autres? Est-ce que ça crée des conflits? Est-ce que j'écrase les gens, même dans mes enfants? Est-ce que j'écrase les gens au lieu de les relever avec mon perfectionniste? C'est peut-être une bonne question à évaluer. Parce que si je suis épuisée comme femme, on est souvent épuisée. Ouais. Est-ce que Dieu me demande tout ça aussi? Même si je parle aux enfants, tu sais, même s'il y a un petit peu une tache sur le champ, mais il va survivre, l'enfant. Tu sais, que moi, quand j'étais, moi, avec mes trucs de microbes, là, tu sais, il fallait pas qu'il y ait un microbe, tout était stérilisé, tu sais, ça avait l'air d'un laboratoire avec les bouteilles de, tu sais. Mais est-ce que Dieu me demande? Maintenant, c'est plus ça, mais tu vois, comme maman aussi, des fois, on va à une place, puis après ça, on est fatigué.
Ouais. Malheureux, Tu veux tellement être parfaite, tu veux tellement donner l'impression que, justement, tout ce que tu fais, tu le réussis, c'est beau, c'est bien, et que, Mais c'est pas tant valorisé par les autres, ou tu reçois pas forcément le retour, le compliment, tout ce que tu veux, mais ça amène, je pense, une certaine forme de tristesse aussi, puis de se dire, bah, tous les efforts que je fais, c'est tout ça que je donne, il y a personne qui leur marque.
Mais est-ce que c'est, ça abîme la relation? Les gens aiment mieux être avec nous que ce que nous faisons, mais nous, des fois, on veut faire au lieu de être.
Rachel, tu as le mot de la fin.
Oui, ben, je voudrais vous encourager aussi à changer votre rapport à l'échec. Aussi, hein.
Tout à fait.
Donc voilà, l'échec c'est pas fini en soi, c'est pas une tombe, au contraire, c'est une pierre sur laquelle on va s'appuyer pour progresser. Donc ça j'aime à le dire dans le perfectionnisme, comme on dit, c'est une grosse dimension de la peur de l'échec. Ouais. Donc changez vraiment votre vision de l'échec, c'est humain, c'est un apprentissage. Tu sais, j'aime bien la citation de Nelson Mandela. Hein. Ouais. C'est soit
j'apprends pas, j'échoue, mais je l'aime pas moi, mais je la valide.
Je n'échoue
parce
jamais.
Parce que moi j'ai mieux apprendre sans échouer. Bon,
c'est je n'échoue jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends.
Ben, c'est ça. Donc,
La perfectionniste. Moi je n'échoue jamais. Il faut se réconcilier avec l'échec. Non, moi je n'échoue jamais.
Mais je suis pas tout perfectionniste.
L'important c'est de participer, c'est pas de gagner. C'est ce que j'enseignais à mes enfants, mais c'est bien plus fun de gagner.
Ouais. Vous voulez Rachel non, Aurélie Tchatchou va dire l'important c'est de participer, elle va dire c'est une parole de perdant.
Ouais, ben oui.
Je fais des blagues, mais
non, c'est une parole de participant.
Mais c'est vrai qu'on devrait faire une émission sur l'échec.
Oui, sur l'échec, comment bien vivre l'échec, qui apprend de l'échec,
Stéphanie,
comment
surmonter l'échec.
J'ai pas encore vécu ça. Mais j'échoue, on échoue tous.
Mais merci Rachel d'avoir été avec nous, de nous avoir encore partagé tes connaissances. Je me sens plus intelligente quand tu parles. J'ai l'impression qu'il y a une vraie transmission.
Auto-réalisatrice.
Ouais, voilà. Donc voilà. Non, mais c'est juste que je mélange plusieurs mots, plusieurs concepts.
C'est pas grave, ça sonne bien. Vas-y Annabelle, nous on t'est à mon coin.
Mais merci Rachel, c'était vraiment super. Et puis on a parlé donc du syndrome de l'imposteur en début de semaine, du perfectionnisme. Et je pense que ça peut être deux fardeaux quelquefois dans la vie de femme qui empêchent d'avancer, qui empêchent de vivre une vie épanouie, puis quelquefois d'être dans des frustrations, de se dire mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi je fais pas ci, je fais pas ça. Mais en fait tout est déjà là. C'est nous qui nous limitons et qui nous sabotons nous-mêmes, qui disons non à plusieurs opportunités. Tu disais que finalement, en rétrospective, tu as réalisé que tu avais dit non à beaucoup de choses. Et je crois que quelquefois aussi, ça va être une parade, c'est de dire oui à plein de choses secondaires, moins importantes ou qui nous gardent dans notre zone de confort et qui finalement sont des bons prétextes pour dire je peux pas dire oui à cette opportunité. Et c'était l'opportunité que Dieu avait mis devant toi, cette opportunité pour laquelle même tu prie, et quand elle arrive, tu dis non. Eh, stop, ça suffit. Donc, c'est le temps de dire oui, oui à Dieu, oui à ce qu'il a prévu pour toi. Tu es qualifié pour le faire, et si Dieu a jugé que tu étais la bonne personne et que c'était le bon timing, qui es-tu aujourd'hui pour dire que ce n'est pas le bon timing, ni la bonne idée, ni la bonne décision? Je fais juste confiance à Dieu. Et nous, on va se retrouver vendredi. Je serai avec Sandra et Stéphanie, et nous serons avec Frédéric, psychologue aussi. On verra si on fait une thérapie en direct. À vendredi, bye bye.
Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.